Alors, c'est toujours le régime des vacances. Non, les enfants se rassemblent pour l'école du dimanche. Voilà, que la bénédiction de Dieu soit sur eux, sur leur monitrice. C'est bien au nom de l'Église que cette tâche importante est effectuée, ce ministère important prend place. Alors, nous continuons dans le sermon sur la montagne. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 5 à 7, le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous avançons un peu. Nous prenons un bloc un peu plus important qui forme un tout. C'est Matthieu 5, versets 38 à 48. Matthieu, chapitre 5, versets 38 jusqu'à la fin du chapitre 5, donc, verset 48. Vous avez entendu. Donc Jésus a dit plusieurs fois, vous avez entendu. Et il parle de la tradition des anciens, des pharisiens, des scribes. Et il parle ensuite de l'enseignement qu'il apporte par rapport à cela. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui, tourne-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, 1 500 mètres, fais-en 2, 3 kilomètres. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, ajoute-t-on. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père, enfant de votre Père, qui est dans les cieux et qui fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes aussi bien que sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi, donc les pécheurs publics, aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Bien sûr. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Éclaire pour nous encore ton saint livre, Seigneur. Amen. Alors, rappelons-le, dans ce discours, Jésus n'est pas en train de modifier ou de s'opposer au commandement de l'ancienne alliance. Il l'a dit explicitement, clairement, jusqu'à la fin du monde, pas la moindre petite lettre de la loi ne sera supprimée. Alors, s'il s'oppose à quelque chose, ce n'est pas au commandement en lui-même, mais à l'interprétation qui en a été faite par les scribes et les pharisiens, par la tradition. Et donc, Jésus rappelle le sens profond des commandements qu'il cite. Et en faisant cela, il propose une lecture ambitieuse, une lecture très profonde, et qui nous lance un défi. Et d'ailleurs, on le voit, dans le dernier verset, ou presque, il y a cette formule qui peut attirer notre attention, qui fait le titre de notre méditation ce matin. Que faites-vous d'extraordinaire ? Donc, Jésus s'attend à ce que nous aspirions à plus d'ambition dans notre vie spirituelle. Il s'attend à ce que nous fassions des choses extraordinaires. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans cette méditation. Que faites-vous d'extraordinaire ? Faire des choses extraordinaires. Alors, tout d'abord, Jésus évoque la fameuse loi du talion, qu'on appelle ainsi, et qui a souvent été mal comprise. On se dit, œil pour œil, dent pour dent, c'est la vengeance. C'est pas vrai. Hein. C'est un texte qui a été adressé, donc il s'adresse à des États, hein, à une justice. Et dans le cadre de la justice, eh bien, et dans le contexte de l'Ancien Testament, on peut penser au contraire que c'était une loi qui voulait stopper la spirale de la vengeance, hein, et qui voulait donner un premier cadre pour la justice. Une justice imparfaite, bien sûr, mais quand même, une justice. Hein. En effet, dire œil pour œil, dent pour dent, c'est dire un seul œil pour un seul œil. C'est déjà un progrès. Hein. Point final. Après, on n'en parle plus. Hein. Donc, c'était déjà un très grand progrès dans la justice. Hein. Alors que le monde ambiant est autour d'eux, eh bien, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'était la spirale de la vengeance. Hein. C'était deux yeux pour un œil. Hein. C'était jusqu'à beaucoup plus. Hein. C'était une mâchoire, hein, pour une dent. Et ça s'amplifiait avec le statut social qu'on avait. C'est ça que je veux dire, beaucoup plus. Et ça ne s'arrêtait surtout jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. C'était la vendetta perpétuelle. Donc c'était un progrès dans ce cadre-là, au niveau de la justice légale. Mais Jésus, ici, a pourtant besoin de souligner l'esprit de cette loi. Et il doit être plus explicite, parce que cette loi était devenue une justification de la vengeance personnelle. Ce qui était au niveau de la loi, eh bien, les gens l'appliquaient à leur propre niveau personnel, les vengeances personnelles. Et donc, on appliquait ça à sa propre personne. Et donc, on disait, c'est écrit, œil pour œil, dent pour dent, donc j'ai raison, si on me fait une anicroche, de rendre l'appareil. Et Jésus dit clairement le contraire. Il dit, si quelqu'un de vous fait du mal, ne vous vengez pas, au niveau personnel. Alors, il aurait pu s'arrêter là, et on aurait déjà eu une bonne leçon, et du grain à moudre, comme on dit. On aurait déjà eu pas mal de travail sur soi à faire. C'était déjà pas mal. Mais Jésus va plus loin. Non seulement il dit de ne pas se venger, mais il ajoute, au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Tourne vers lui l'autre joue. Alors, grande question. Faut-il prendre au pied de la lettre ce que Jésus dit ici ? Certains l'ont fait. Ça pourrait être, si vous tendez l'autre joue, ça peut être conçu comme la provocation d'ailleurs. Alors, je crois qu'il faut revenir à l'idée que ce n'est pas vraiment au pied de la lettre qu'il faut le prendre. Jésus utilise ici un langage qu'on a appelé hyperbolique, c'est-à-dire il exagère le trait, et il force le trait, il exagère, si vous voulez, pour faire ressentir la leçon. Et donc, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux dans ce qui est dit. Hein, l'essentiel, c'est que non seulement on ne doit pas se venger, mais en plus, nous devons faire un pas vers celui qui nous agresse. Hein, c'est ça l'idée, de tendre l'autre joue. Hein, c'est de faire un pas vers celui qui nous agresse. Et donc, il s'agit non seulement de ne pas nous venger, il s'agit de contre-attaquer par amour. Et donc, ça peut prendre diverses formes. Et donc, nous arrivons maintenant au deuxième commandement évoqué par Jésus. Alors, donc, il est dit, tu dois aimer ton prochain. Alors, ce n'est pas dans les 10 commandements, c'est le résumé de la deuxième partie des 10 commandements. Mais ça se trouve dans l'Ancien Testament quand même, c'est dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18, tu dois aimer ton prochain. Alors Jésus rappelle donc cette parole des Écritures, mais par contre, la deuxième partie qu'il cite n'est pas dans les Écritures. Les pharisiens avaient ajouté cela. Tu dois aimer ton prochain, c'est dans la Bible, mais tu dois détester ton ennemi, c'est pas dans la Bible. Et dans vos Bibles, vous voyez, le premier est en italique, et le second, c'est une citation, mais la deuxième partie n'est pas en italique, en principe. Donc, sans doute, et donc on avait ajouté ça. Et sans doute, on avait ajouté ça parce qu'on comprenait ainsi les choses. Les prochains, ce sont nos amis, disait-on, ou au moins ceux qui ne nous veulent pas de mal. Et notre ennemi, eh bien, ne peut pas donc être notre prochain. Donc c'est une façon très humaine de penser les choses. Et Jésus veut tordre le cou à cette idée très, très humaine qu'on avait ajoutée, donc à la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors là, c'est révolutionnaire. On ne trouve ça que dans les paroles de Jésus. Aimez ses ennemis. Jésus est en train de tout bonnement de redéfinir qui est notre prochain. Nous n'avons pas à trier entre les prochains que nous devons aimer et ceux que nous devons haïr parce qu'ils seraient nos ennemis. Pour Jésus, nos ennemis aussi sont nos prochains. Et cette question donc du prochain est discutée ailleurs dans les évangiles. C'est dans l'évangile de Luc, on voit que lorsqu'un chef religieux a demandé à Jésus un jour qui était son prochain, Jésus avait répondu avec les paraboles, la parabole du Samaritain. Et donc ici aussi, il rappelle que notre prochain est celui qu'on croise, c'est la personne qu'on croise sur notre route. Voilà quel est notre prochain. Même s'il est notre ennemi, même s'il nous veut du mal. Alors, Jésus ensuite nous appelle à faire des choses extraordinaires, comme j'ai dit dans l'introduction. Que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? En entendant le discours de Jésus, on comprend que Jésus ne s'attend pas ici à des miracles puissants, à des guérisons surnaturelles, à des actes éclatants. Ce n'est pas de ce genre de choses extraordinaires dont il parle. Ce n'est pas de cela dont il parle. Il parle de refus. Voilà l'extraordinaire à faire. Le refus de la vengeance. L'amour du prochain. Il parle de l'extraordinaire qui vient se nicher dans l'ordinaire de notre quotidien. L'ordinaire, c'est vengeance. C'est amertume, c'est tout ça. L'extraordinaire, c'est, eh bien, refus de la vengeance, amour du prochain. Et le défi est énorme. Le défi n'est pas moins grand que de faire des miracles puissants. Parce qu'il faut un miracle puissant dans nos vies pour refuser la vengeance et aimer son prochain. Et donc, les exhortations de Jésus concernent nos relations les plus difficiles. Non pas avec ceux qui nous font du bien, après tout, c'est assez facile, c'est pas toujours, on n'aime pas toujours ceux qui nous font du bien, mais c'est quand même plus facile d'aimer ceux qui nous font du bien, nos amis, par exemple. Mais ça concerne ceux qui nous font du mal, nos ennemis. Et donc, l'amour, la grâce, la bonté, la générosité, le pardon dont nous pouvons faire preuve dans notre quotidien, peuvent être de l'ordre de l'extraordinaire. Alors, il ajoute autre chose. La raison, il y a deux raisons pour faire ces choses extraordinaires dont il vient de parler. La première raison pour laquelle Jésus nous appelle à agir ainsi, c'est l'exemple donné par Dieu lui-même. Et donc, il nous invite à vivre à l'image du Père. Et on le voit au verset 45 et on le voit au verset 48. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père, les fils de votre Père, les enfants de votre Père qui est dans les cieux, si vous faites ça. Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Donc déjà, nous sommes appelés à vivre à l'image du Père. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit de l'action de Dieu ici. Dieu fait briller le soleil. Aujourd'hui, on a un jour de beau temps, on l'a signalé. Dieu fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir aussi. Vous voyez, s'il y avait plu, j'aurais eu quelque chose à dire aussi. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Bien sûr, c'est une métaphore. C'est une image de la grâce de Dieu qui ne fait pas d'exception, qui ne fait pas d'exception de personne. Mais cette grâce, et c'est ça aussi qui apparaît pas toujours quand on lit ce passage un peu vite, cette grâce se manifeste dans les événements du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de plus quotidien que le soleil? Qu'est-ce qu'il y a de plus quotidien que la pluie? Et donc, cette grâce de Dieu se manifeste dans les événements du quotidien comme le soleil et la pluie. C'est bien dans notre quotidien que nous sommes appelés à faire des choses extraordinaires quand il pleut. Et quand le soleil brille. Et puis, on peut dire aussi que Jésus nous prend, ce texte nous invite à prendre un peu de recul et à regarder l'image du Fils, à vivre, à nous rappeler que nous sommes appelés à vivre non seulement à l'image du Père, mais à l'image du Fils, de Jésus. Évidemment, si on prend un peu de recul, il y a l'exemple de Jésus lui-même qui apparaît. Jésus a mis en pratique tout ce qu'il a dit. Il a mis en pratique mieux que tous les autres les principes qu'il enseigne dans ce discours. Jésus, on le voit dans les évangiles, a refusé la vengeance. Il y avait de quoi pourtant. Il a aimé ses ennemis. Il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé juger. Il s'est laissé condamner. Alors même qu'il était innocent. Nous ne sommes pas toujours totalement innocents, mais lui, il l'était. Et sur la croix, il a prié pour ses ennemis en disant « Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et donc, il y a aussi l'idée dans ce texte que la tentation de la vengeance existe bien dans notre vie quotidienne. On a parlé de guerre dans la première partie, c'est normal. Il y a les médias, il y a tout ce qui entoure l'Ukraine. Il y a toujours eu des guerres, mais on oublie les guerres, la guerre intérieure, la guerre profonde qui est dans notre vie. Et puis la guerre avec les autres niveaux du quotidien. La tentation de la vengeance, de la guéguerre avec les autres dans notre vie quotidienne existe bien, bel et bien. Dans nos relations, il y a de multiples occasions de se sentir agressé ou attaqué. Alors on peut se sentir agressé par une parole, par une attitude, l'attitude d'un collègue de travail par exemple, d'un voisin. Et lorsque quelqu'un nous fait du mal d'une manière ou d'une autre, on a souvent envie de lui faire du mal en retour. Si quelqu'un nous marche sur le pied, on a envie de lui marcher sur le pied également. C'est des fois bête et méchant. Dans la lignée des précédentes paroles de Jésus, le réflexe de la vengeance donc, commence dans nos pensées. Jésus a dit que ça commence par les pensées, et puis après ça vient dans les paroles, et ensuite les actes. Et donc, ça commence avec la rancœur, ça commence avec la frustration qu'on entretient. Il y a des frustrations, mais il y a celles qu'on entretient. C'est le pire. Et ça se manifeste dans des paroles ensuite blessantes ou des paroles ironiques, moqueuses, pour répondre du tac au tac. Rien laisser passer. Rien laisser passer. Et c'est là, avant de passer à l'acte, qu'il faut couper. Qu'il faut couper le cours de la vengeance. Il faut couper court au réflexe de la vengeance. Il faut laisser envoler l'oiseau, laisser ouvrir la cage aux oiseaux. Vous vous souvenez de ça, ça a marqué plusieurs générations. Il faut laisser ouvrir la cage aux oiseaux, il faut laisser s'envoler l'oiseau de la haine. Il faut laisser s'envoler l'oiseau du ressentiment. Plutôt que de le laisser faire son nid, on va dire, dans notre cœur, et pondre des œufs et les couver. Mais cette fois, Jésus va encore plus loin. Il a déjà commencé à aller plus loin, mais là, il va encore plus loin dans les derniers versets de notre passage. Non seulement, il parle donc de contre-attaquer par amour. Non seulement couper court à la vengeance, mais contre-attaquer par l'amour. Non seulement il s'agit donc de ne pas se venger, de ne pas haïr, de se retenir, on va dire, mais il s'agit d'avoir un geste, une action en direction de l'ennemi. Il s'agit de prendre le contre-pied de la vengeance. On ne vainc pas le mal, mais par le bien. Et là, on peut citer Martin Luther King qui a dit de très belles paroles là-dessus. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Vous citez d'autres citations de Martin Luther King qui vont dans ce sens-là. Les paroles de Jésus sont un appel à la non-violence. Cette non-violence n'est pas seulement un refus de la violence, mais c'est le choix de la paix et du pardon. Donc les paroles de Jésus nous appellent à choisir la paix et le pardon dans toutes les circonstances que nous venons de rappeler. Alors Jésus ne nous demande pas seulement donc de refuser la vengeance et de ne pas haïr son ennemi. Il nous demande, donc on l'a dit, hein, en l'interprétant au mieux, de tendre l'autre joue, de donner son vêtement, d'aimer ses ennemis. Et puis il ajoute de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors nous sommes toujours appelés donc à faire un pas, pour résumer, à faire un pas décisif vers notre prochain. Ça peut prendre différentes formes, bien sûr. Et notre prochain, quel qu'il soit, ça peut paraître parfois une folie, avec un grand F. Mais dans ce contexte-là, c'est bien la folie de l'amour. Et c'est cette même folie de l'amour dont Dieu a fait preuve à notre égard. Alors, est-ce que, si on ramène ça, si on revient sur le dernier mot, prier pour ceux qui nous persécutent, est-ce qu'on prie pour ceux qui nous font du mal? Alors, prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal, qui nous maltraitent, dit une version, un certain texte, eh bien, qu'est-ce que ça change? On va dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça change? Alors, je crois que, ça, pour résumer, ça change trois choses. D'abord, ça nous change de prier, par exemple, pour nos ennemis, pour ceux qui nous maltraitent. Ça nous change. Parce que ça libère le poison dont on a parlé tout à l'heure. Ça nous libère de ce poison qu'est l'amertume. J'ai vu, on voit tous les mêmes pubs à la télé avec le desktop qui libère les canalisations des toilettes et des salles de bain. Et on voit que ça, les petites choses s'amassent. Puis ça fait un gros machin qui arrête l'évacuation. Et puis desktop arrive, et il fait tout son travail. Ça, c'est vrai que ça marche. Mais on peut dire aussi que c'est vrai que ça marche dans le domaine spirituel. Tous ceux qui, parmi nous, ont prié pour ceux qui leur font du mal, ont vécu une sorte de libération. Et prier pour les autres, c'est souvent la meilleure chose qu'on peut faire, et ça nous libère de ce poison qu'est l'amertume déjà. Et puis ensuite, ça nous fait ressembler davantage à notre Père Céleste. Ça nous fait ressembler davantage à Jésus, le Fils de Dieu. Donc d'abord, ça nous change. Et puis, ça change notre adversaire. Ça change notre adversaire. Alors, c'est pas automatique, mais ça change quelque chose. Ou bien notre adversaire va se raviser, ça va le triturer dans sa conscience, il va changer d'opinion. Et de comportement, ou bien il va en faire plus, il va enrager encore plus de voir que ses manœuvres n'ont pas entamé notre volonté, mais ça va changer notre adversaire d'une façon, ça va provoquer quelque chose. Et puis en troisième lieu, Dieu intervient surtout dans notre situation, dans ces cas-là. Il est parlé de récompense dans ce passage, c'est surtout Dieu qui intervient dans notre vie, quand il voit cette attitude que nous avons. De prière. Dieu répond à ce genre de prière. Il y a une promesse pour ce genre de prière. Alors Dieu intervient dans nos situations. Des fois c'est pour changer la situation, mais il faut bien garder les pieds sur terre. Des fois la situation ne change pas parce que l'autre ne veut pas. Mais il nous donne alors la force d'endurer la situation. Donc de toute façon, Dieu intervient dans notre situation et ça vaut la peine de prier pour ceux qui nous font du mal. Alors, je conclus. Que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est dans notre quotidien donc, que se trouve la réponse à cette question. Dans nos pensées d'abord, dans nos paroles, et ensuite dans nos actes. Et c'est vrai, Jésus place la barre bien haut. Il place la barre en hauteur. Et il la place vraiment très haut. Et il nous appelle donc à être des ouvriers d'amour et de paix. Il nous appelle à ne pas seulement résister à la vengeance, mais à faire preuve donc de grâce, de pardon. Il nous appelle à ne pas résister donc à la haine de ceux qui font du mal, mais donc à contre-attaquer par amour et par la prière. Alors c'est un langage un peu guerrier, mais on pourrait, c'est pas forcément, hein, on va employer une autre image, c'est l'image d'un sport, le rugby par exemple, hein. C'est vrai aussi pour le foot, pour tous les sports, hein. Il s'agit d'avoir un jeu défensif et un jeu offensif, hein. Les bonnes équipes qui gagnent, hein. Le tournoi des nations, hein, c'est pas seulement parce qu'elles savent avoir un jeu défensif, hein, c'est très utile, hein. Résister à la haine de ceux qui nous font du mal, mais il faut aussi avoir un jeu offensif, hein. Contre-attaquer par l'amour et la prière. Voilà, c'est ambitieux, hein. Mais Jésus est notre entraîneur, on va dire, hein. Il a déjà remporté le combat, hein. Et il nous a montré le chemin. Et le chemin que Jésus lui-même nous a montré, nous pouvons y marcher par la force que donne l'Esprit de Dieu. Ce n'est possible que si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre au plus profond, bien sûr, de nos cœurs. C'est possible que si l'Esprit de Dieu renforce cette communion avec Jésus et continue à nous transformer à l'image de Jésus. Ce qui est en Jésus, il le met en nous. C'est ce processus continuel qu'il veut faire dans la vie de ceux qui sont unis à Jésus. Donc, travaillons aussi notre communion avec Jésus chaque jour pour être à même de faire donc ce jeu défensif et offensif de l'amour. Amen.